Technicienne plateau et machiniste, c'est quoi au juste? C'est ce que je vais tenter de t'expliquer aujourd'hui. Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis technicienne dans le spectacle, et souvent, on me répond
« Ah ouais, trop cool, tu fais les lumières et le son, c'est ça ?»
Et à chaque fois, eh bien, je réponds que oui, je suis technicienne, mais je ne fais ni l'un ni l'autre. Mais alors, je fais quoi? Je suis spécialisée au plateau, et je suis toujours obligée d'expliquer ce que ça veut dire. Généralement, je l'explique en une phrase. Je monte la scène, j'installe les décors et les rideaux, et parfois je suis chargée de bouger les décors pendant les spectacles. Comme ça, en disant ça, la personne en face de moi, elle peut s'imager un peu mon métier. Mais bien souvent, j'en reste là, et j'ai la sensation que la personne n'a pas forcément bien compris, et c'est normal, car contrairement à la lumière et au son, nous, au plateau, nous sommes les invisibles. L'essence même de notre métier, c'est qu'il ne faut pas que le public puisse nous remarquer, ni même se douter du nombre de personnes qui se cachent en coulisses. Alors aujourd'hui, je vais mettre en lumière mon métier et te dévoiler les coulisses du spectacle vivant. Je suis déjà au regret de te dire qu'il n'y a rien de magique dans la technique du spectacle, mais je ne vais pas te décrire pour autant toutes les ficelles du métier, mais t'expliquer globalement comment un spectacle s'organise techniquement avant que tu puisses t'installer dans ton siège. Tout ce que je vais dire ne concerne que le milieu théâtral et le spectacle vivant, car les manières de travailler sont différentes selon les domaines. En fait, c'est assez différent dans la musique, les concerts, l'événementiel ou les tournages par exemple. Donc je vais axer cet épisode sur mon métier au plateau. Je fais très peu de lumière et pas du tout de son, donc je vais rentrer dans les détails uniquement de ma spécialisation, la machinerie. Pour cet épisode, j'ai eu envie de retracer l'histoire de mon métier à travers le temps et je trouvais ça intéressant de te raconter l'évolution de l'expérience théâtrale. Nous allons commencer de la naissance du théâtre vers l'an 500 avant notre ère jusqu'à aujourd'hui en explorant les plus grandes étapes. Ce qui m'intéresse de raconter concerne le théâtre en lui-même, son architecture, la taille de la scène, la jauge, pourquoi le public assistait à des spectacles. Je vais raconter comment les décors ont fait leur entrée dans le spectacle vivant et les techniques que l'on a conservées. Je vais également m'intéresser à l'histoire des comédiens et des comédiennes. Qui ils étaient par exemple? Est-ce que les femmes avaient le droit de monter sur scène? Spoiler, non, pas tout de suite. Par contre, je ne vais pas détailler sur les manières de jouer à travers les époques, ni trop sur le contenu des spectacles. Ça serait trop long, mais je donne ma bibliographie à la fin de l'épisode qui englobe toute l'histoire du théâtre si ça t'intéresse. Ensuite, je vais revenir sur mon métier au plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, les différentes étapes où j'interviens dans le processus, jusqu'au jour où on dit au revoir au spectacle. Enfin, je vais te raconter mon histoire, mon parcours, mes ressentis et ce que je dirais n'engage que moi. Allez, entrons dans les coulisses du spectacle, le théâtre et la machinerie, point historique. Le théâtre est né au 5e siècle avant notre ère et l'expérience du spectateur a beaucoup évolué et était très différente à celle qu'on connaît aujourd'hui. Tout d'abord, c'était un divertissement gratuit et en plein air. Les comédiens étaient non professionnels. Le théâtre naît en Grèce, à l'époque archaïque, lors des fêtes en l'honneur de Dionysos, le dieu du vin et des arts. J'aime beaucoup la symbolique derrière le fait que le théâtre soit né grâce au dieu Dionysos, qui est aujourd'hui le nom d'un groupe que j'adore. Les gradins étaient un demi-cercle en escalier permettant à 15 000 personnes d'assister au spectacle. 15 000 personnes, c'est bien plus qu'un zénith et une telle jauge pour voir du théâtre. Déjà, ça semble lunaire. C'est un lieu en bois démontable, pas encore un lieu fixe. Les spectateurs étaient donc dans le demi-cercle, comme dans un amphithéâtre, et la scène était au fond, en face. Au centre, en contrebas du public, il y avait ce qu'on appelait l'orchestra, la piste pour les danses et les chœurs. En fond de scène, sur toute la largeur, il y avait un bâtiment avec trois portes pour les entrées et les sorties des comédiens et qui leur servait aussi de coulisses. Les comédiens évoluaient devant ce bâtiment qu'on a appelé la skéné et qui deviendra plus tard la scène. Il n'y avait pas vraiment de décor. Sur les côtés, il pouvait y avoir quelques panneaux posés contre la skéné pour suggérer des lieux. Cependant, la peinture du décor n'était pas destinée à être réaliste. Sophocle inventa un premier élément de machinerie, les périactes. ce sont des colonnes à trois faces qui tournaient sur elles-mêmes et à chaque face, il y avait une peinture différente pour évoquer trois lieux. Il y avait également un grand effet scénique très attendu, avec certainement une sorte de grue pour l'apparition d'un dieu. Aujourd'hui est restée l'expression « Deus ex machina », le dieu apporté par la machine. Il fallait faire apparaître le dieu par les cieux. L'effet était probablement grinçant et avec de nombreux à-coups qui aujourd'hui nous paraîtraient peu spectaculaires, pas pro ou même ridicule, mais qui à l'époque divertissait beaucoup le public. Le public en hauteur surplombait le tout et pouvait assister en même temps au paysage derrière la scène. C'est un édifice ingénieux car il y a dans les vestiges grecs une excellente acoustique. Un comédien pouvait déclamer son texte et être entendu jusqu'en haut du gradin sans amplification. Peut-être en as-tu déjà fait l'expérience en visitant le théâtre antique d'Orange, magnifiquement conservé. Si tu parles de la scène, on t'entendra tout au bout du gradin. Et ça, c'est bien mieux pensé que dans les lieux modernes actuels où l'acoustique peut être assez mauvaise. Nous avançons dans le temps, car si je parle du théâtre d'Orange, on n'est plus dans un édifice grec, mais romain. C'était un théâtre antique romain. C'est en moins de 240, suite à la conquête de la Sicile, que les Romains découvrent le théâtre grec et ils sont fascinés par le fait qu'on raconte une histoire avec une intrigue. En termes d'expérience de spectateur, on va au théâtre, mais on parle fort, on s'interpelle, on mange, on boit, c'est en plein jour. Et pendant 45 ans, les spectateurs sont debout, donc on peut vagabonder comme ça dans le théâtre. Pour l'architecture, les Romains ont gardé la même forme avec les spectateurs, dans le demi-cercle et la scène en face. Mais en fond de scène se dresse un immense mur qui ferme le théâtre. On ne voit plus le paysage derrière la scénée. Tu peux visiter aussi le théâtre gallo-romain de Lyon ou chercher des images sur internet, mais dans ces vestiges, on ne voit plus du tout le mur qui fermait la scène. Sur ce grand mur, il y avait comme plein d'étagères et nos chers Romains y déposaient leur butin et leurs plus belles richesses pour qu'elles soient visibles de tous. Il y a de la même manière que chez le théâtre grec, peu de décors mis à part à gauche et à droite. Il y a une évolution chez les comédiens, avant ils étaient masqués pour garder un certain anonymat et pour mieux ressembler à leurs personnages. Chez les Romains, ils n'ont plus de masque mais du maquillage. Les acteurs, de toute façon, sont des non-citoyens, donc des esclaves ou des affranchis. Ils sont professionnels sous l'autorité d'un chef de troupe. Ils étaient au banc de la société, mais paradoxalement, certains aussi étaient riches et célèbres, et étaient comédiens uniquement les hommes. Apparaît alors le mime et les farces licencieuses qui étaient parlées et dansées, où des femmes pouvaient participer, mais plutôt pour divertir d'une manière vulgaire. La femme objet, la femme sexualisée, qu'elle danse, oui, mais qu'elle ne parle pas surtout. Et oui, ça vient de loin, et c'est peut-être pour ça que c'est aussi dur de s'en défaire encore aujourd'hui. En moins 55 fut construit le premier théâtre en pierre, le premier théâtre fixe donc, grâce à Pompée, le rival de César, afin de mieux faire admirer son butin dans les étagères de la Scénée. Donc pas vraiment par amour du théâtre quoi. Les théâtres en pierre pouvaient accueillir 30 000 à 80 000 spectateurs, ce qui équivaut au Stade de France. Quelle pièce aujourd'hui pourrait remplir un stade ? Faudrait essayer avec Edmond Alexis Michalik peut-être, mais aujourd'hui une ambiance de stade, je ne crois pas que ce soit tout à fait le type d'expérience qu'on recherche en allant voir une pièce. Ce sont donc des jauges énormes, on a du mal à se l'imaginer je trouve. J'ai trouvé beaucoup de chiffres de capacité d'accueil de spectateurs possibles, mais j'ai lu qu'il n'y avait jamais moins de 5000 places dans un théâtre. Donc, c'était au minimum la capacité d'un zénith. On est loin des petits théâtres nichés dans tout Paris, où certains peuvent accueillir une centaine de personnes et ont même parfois du mal à remplir la salle. Avant d'être un lieu fixe, le théâtre était joué sur des périodes. C'était des événements, mais qui furent de plus en plus longs et donc de moins en moins exceptionnels. Il pouvait y avoir 30 jours de théâtre d'affilée, puis 60, puis 100. Bon, jusqu'à ce que ça devienne un événement quasi quotidien. À Rome, lorsque l'on venait au théâtre, c'était pour assister à de grandes réflexions civiques. J'avais dit que je ne parlerais pas du contenu des spectacles, mais au départ, c'est important d'en parler. Le théâtre est un service public de divertissement et d'enseignement. On venait assister en journée, en somme, à des leçons de civilité. Comment se comporter en bon romain? Chaque romain est citoyen et travaille. Donc, les romains ne sont plus appelés à la guerre. On y envoie les étrangers et les non-citoyens. C'est pourquoi les romains ont eu soif d'amusement et besoin qu'on les divertisse. Ce pourquoi il y eut tous ces jeux, les arènes et les spectacles à cette époque. Dans le théâtre en pierre, les 14 premiers rangs étaient réservés aux catégories professionnelles où il n'y avait que des hommes. Les femmes pouvaient assister au spectacle et c'est d'ailleurs le seul lieu public où on peut les côtoyer, ces femmes, et c'est ce qui rendait aussi très attrayant d'aller au théâtre. Pendant très longtemps, tu verras, aller au théâtre, c'est vraiment pas pour écouter tel texte, c'est un événement social, comme on va voir un feu d'artifice aujourd'hui, je dirais. Le théâtre, on s'y rencontre, on y va pour se faire voir, on y mange, faut s'imaginer une autre ambiance qu'aujourd'hui. Dans le théâtre en pierre, il était possible de couvrir les spectateurs avec un vélum qui se déroulait au-dessus des têtes pour les protéger du soleil. Ils avaient imaginé une machinerie ingénieuse qui, lorsqu'elle était actionnée, cela faisait aussi partie du spectacle. Le toit rétractable en tissu se déployant simultanément tout autour de l'hémicycle. Tu peux en faire expérience au Puy du Fou en assistant au spectacle Le Signe du Triomphe qui se déroule dans une arène. Quand le spectacle commence, les vélums sont actionnés et cela fait partie intégrante du spectacle et j'imagine qu'ils ont fait ce choix historique pour nous faire plonger dans l'expérience de l'époque. Ensuite, le spectacle en lui-même aussi rend hommage au premier spectacle auquel les Romains ont pu assister avec les jeux du cirque, les combats de gladiateurs et courses de chars. Et à l'époque, il y avait même des batailles navales. Ils arrivaient à remplir d'eau toute l'arène. Aujourd'hui, quand il y a de l'eau sur un spectacle, je peux te dire, on fait un peu la gueule. On sait que ça va être un sacré challenge. À la chute de Rome, au 5e siècle de notre ère, les pères de l'Église condamnent fermement le théâtre. Il n'y aura plus de théâtre pendant 600 ans, mis à part quelques acrobates, mimes et saltimbanques. Le théâtre reviendra d'abord en extérieur, puis, paradoxalement, sur les parvis d'église. Le miracle, puis les mystères, seront des genres où le propos du spectacle est destiné à un public illettré pour faire vivre l'histoire sainte et la leur racontée. Le théâtre a d'abord été longuement lié à la religion. Les spectacles durent plusieurs jours, de 6 à 25 jours, tu imagines ? Actuellement, on a pu revivre l'expérience de plusieurs jours de théâtre d'affilée avec les adaptations de Henri VI et de Richard III de Thomas Joly, par exemple, ou encore The Cursed Child à Londres. Les mystères sont joués sur les parvis d'église et en place publique. Mystère signifie ministère. On revient encore au service public. On enseigne au peuple en le divertissant. Pour les mystères, une centaine de comédiens étaient nécessaires. Toute la ville y assistait. Les actions se déroulent sur une cinquantaine de mètres devant des petites scénettes appelées mansions. Chaque scène, les unes à côté des autres, représentait un lieu différent et les acteurs avançaient devant chaque décor. C'était des pièces religieuses, alors je te laisse imaginer. Les décors représentaient un temple, le palais, la maison des évêques par exemple, et à une extrémité se trouvait la gueule de l'enfer et à l'autre extrémité le paradis. Là, il y avait beaucoup de machinerie, avec certainement des systèmes de grues, de poulies et de contrepoids pour faire des apparitions célestes, les comédiens volaient devant les mansions pour les résurrections et les apparitions. Il y avait des animaux articulés pour représenter l'arche de Noé. La gueule de l'enfer s'ouvrait, il y avait beaucoup de trucages pour créer des flammes et la fumée quand les portes de l'enfer s'ouvrent, des bruitages pour le tonnerre, etc. Les effets scéniques faisaient beaucoup dans le divertissement du peuple. À ce moment-là de l'histoire, les comédiens sont bénévoles et les rôles sont distribués de père en fils, car tous les rôles sont joués par des hommes, même les rôles féminins. Être comédien était déjà mal vu par l'Église, alors d'autant plus quand les hommes se travestissaient. Il n'y avait pas de recherche de réalisme. Quand un comédien a terminé son texte, il se met sur le côté et regarde ses camarades jouer. On ne se dissimule pas aux yeux du public. Après l'an 1000, on autorise les farces et les caricatures lors des carnavals et lors de la fête des fous. On trouve en ville des confréries joyeuses, on joue des monologues légers et comiques, on se détache du divertissement religieux. On divertit et on amuse le public. Et en gros, ça commence à partir en vrille. Et nous arrivons au XVIe siècle, où de profonds progrès vont également faire évoluer le théâtre. L'imprimerie et les grandes découvertes comme le fait que la terre soit ronde, le nouveau commerce et la ruée vers l'argent vont faire évoluer la société et notre manière de faire du théâtre. En 1580, à Londres, on crée un seul lieu pour y jouer des spectacles et on fait payer l'entrée pour la première fois. C'est un moment où les comédiens vont voir leur talent réattribué jusqu'à, pour certains, se professionnaliser. On aura un intérêt à jouer des pièces avec le moins de rôles possible afin que la part de la recette soit meilleure, dans un lieu petit, pour moins d'entretien, clos, pour faire payer l'entrée, et devant un public le plus riche possible. Il n'y a plus de théâtre au moment des fêtes, où chacun est convié, mais un théâtre réservé à ceux qui peuvent se le payer. Comme aujourd'hui, quoi. Et enfin, les femmes pourront monter sur scène. Le théâtre élisabétain est en forme de globe. Les spectateurs avaient un toit au-dessus de leur tête et entouraient la scène quasi entièrement. La scène, elle, est à ciel ouvert, on jouait l'après-midi et le soleil servait d'éclairage. Le plateau est en dur et il y a une avant-scène en bois sur des tréteaux pour les monologues et les batailles. En fond de scène, il y a un bâtiment à étages pour les apparitions et les scènes de mort, car on ne montrait pas frontalement la mort sur scène. C'est en fond de scène que se déroulait par exemple la mort de Juliette ou les scènes d'adultère. Le fond de scène avait plusieurs niveaux. Il y avait un balcon qui pouvait suggérer un rempart de château fort ou tout simplement le balcon de Juliette. En fond de scène se cache la machinerie avec des systèmes de trappes pour les apparitions dans le plateau ou dans le plafond et apparaît un rideau en avant-scène. Ce type de théâtre est possible d'être visité à Londres au Globe Theatre de Shakespeare. Je ne sais pas tout à fait quand arrivent les femmes sur scène, mais j'ai lu que chez Shakespeare, les femmes ne jouaient pas encore. À cette époque, on cherche à contrôler les divertissements populaires, car les farces et les sotties vont bon train et se plaisent à ridiculiser les membres de l'église ou de la famille royale. On va interdire les mystères, puis tous les types de comédies, même si les farces continueront de manière clandestine. On va jouer plutôt des tragédies et alors inverser la tendance. Avant, les commandes demandaient au texte une approche obligatoirement religieuse pour que le croyant délaisse le péché. On va dorénavant mettre à l'honneur l'œuvre, le texte, la dramaturgie et l'auteur. Pour l'architecture, on copie le théâtre romain avec son hémicycle et son grand mur et on garde les trois portes de la Skénée, mais avec les nouvelles connaissances et les nouvelles techniques, on introduit le décor en perspective. C'est une toile peinte en trompe-l'œil avec un plateau en pente incliné vers l'avant. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de restes de cette époque, notamment dans notre vocabulaire au plateau. Pour la perspective, le plateau était en pente, donc le plus au fond de la scène, on était plus haut. Et quand on s'approche de l'avant-scène, on descend la pente. Aujourd'hui, pour se diriger sur scène, même si le plateau est plat, quand on dit monter, c'est qu'il faut aller vers le fond de la scène. Le fond, on appelle ça le lointain, donc tu montes vers le lointain, et quand on dit « descend », c'est qu'on doit aller vers l'avant-scène, qu'on appelle la face. On peut visiter ce type de théâtre au Théâtre Olympique de Vicence, au nord de l'Italie. Pour les changements de décor, il y a un rideau d'avant-scène. Voilà encore quelque chose que nous avons gardé aujourd'hui, même si tous les spectacles contemporains ne l'utilisent pas. On conçoit un grand espace scénique avec rideau, mais à ce moment-là, on préfère encore les changements de décor à vue qui divertissent le public. Aujourd'hui, c'est la même chose. Soit pendant le spectacle, tu verras le rideau se fermer, et généralement, il y a quelque chose qui se passe devant le rideau pour que tu ne te rendes compte de rien. Et nous, derrière, une fois le rideau au sol, les machinistes, on change le décor, On peut changer aussi la lumière et le son. Les comédiens se mettent en place pour la scène suivante et on a un temps limité pour le faire. C'est ce qu'on appelle un précipité. On sait tous ce qu'on doit faire et dans quel ordre, et si possible, en silence. Ou alors, il y a des changements de décor à vue. Soit le machiniste est assumé dans la mise en scène, soit on doit être costumé pour faire illusion, comme si on était un figurant du spectacle, soit le décor change et tu ne vois aucun machiniste et on dirait que c'est magique. Parfois, ce sont aussi les comédiens eux-mêmes qui font les changements de décor à vue. En tant que machiniste, si on est vu du public, on a alors une prime feu. On revient à l'histoire. Une grande évolution pour la machinerie va arriver grâce à Jean-Jérôme Civadier qui va imaginer cacher au premier plan le haut des décors. Cette idée va créer une rupture entre la salle et la scène qui vont alors devenir deux lieux différents. C'est ce qu'on appelle le cadre de scène. On est dans un début de recherche de réalisme et d'illusion au théâtre avec cette séparation. Petit à petit, on dissimule les fils, les poulies et la machinerie globale et on finira par fermer le rideau quand le décor doit changer pour moins de changements à vue. Le public est dans un fer à cheval, je dirais, sur plusieurs niveaux. Au début, le public est encore debout dans le parterre face à la scène. Tu peux voir sur internet à quoi ressemblait ce type de théâtre en tapant « la salle des machines aux Tuileries ». La particularité de cet agencement de scène est qu'elle fait 30 mètres de profondeur. C'est très grand. L'acoustique est déplorable, les comédiens ont froid, c'est humide, ils se fatiguent à déclamer fort leurs textes. Ce qui va marquer cependant, c'est que dans cette salle, on est d'un côté côté cour du carrousel et de l'autre côté jardin des Tuileries. Et c'est de là qu'on gardera le vocabulaire côté cour et côté jardin. Au plateau, on ne parle pas de gauche ou de droite, car tout dépend de comment tu te places sur le plateau. Si par exemple, tu es le metteur en scène et tu parles à ton comédien, tu es dos au public et tu dis à ton comédien de se déplacer à droite. Le comédien en face de toi, ce sera sa gauche, et ça peut créer de la confusion. Il y a alors le côté cour et le côté jardin qui est le même dans n'importe quel théâtre. Lorsqu'on est face à la scène, comme un spectateur, la droite, c'est côté cour, et la gauche, c'est côté jardin. Bon, nous on a trouvé cette astuce, mais dans les autres pays, ils disent left and right. Enfin, on arrive au théâtre français, en 1788, où on fait asseoir le public dans le parterre. Ça y est, tout le monde est installé et assis dans la salle. Un lustre allumé au centre éclaire le public et la scène. On va toujours au théâtre pour être vu et pour voir qui est présent. On va compartimenter le public avec des loges, des couloirs et des escaliers pour que chaque catégorie de public n'ait pas l'occasion de se croiser. Non, non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Dans les loges sont attribués les officiels et les notables, à l'orchestre les gens riches, au premier balcon en corbeille les mondains, au deuxième balcon les bourgeois, au troisième balcon les artisans et les commerçants, et au poulailler, le tout dernier étage, pour les domestiques, les employés et le menu peuple. Le terme « ouvreur » aujourd'hui distingue le personnel qui accueille le public et le place, mais à l'époque était « ouvreur » celui qui ouvrait les loges. En loge, les officiels pouvaient s'enfermer et recevoir des personnes, et il s'y passait beaucoup de choses, si tu vois ce que je veux dire. En loge, on surplombe le public comme la scène. On y est vu, on y est admiré. C'est là que sont installés le roi d'un côté et la reine de l'autre. Aujourd'hui, on peut toujours voir des loges qui distinguent et ne mélangent pas le public. Par exemple, dans les stades où ceux qui veulent être tranquilles peuvent se réserver une loge et il faut en avoir les moyens ou le statut social. Mais dans les théâtres à l'italienne, si tu prends une place en loge, à la même place que les loges royales, ce sont des places où tu vois assez mal le plateau. Tu ne verras pas la profondeur de la scène, tu es sur les côtés, bref, c'est une expérience très médiocre. C'était des places pour être vues de tous, pas pour assister convenablement au spectacle. Aussi aujourd'hui, on a toujours les catégories, dans les grandes salles, où ceux qui peuvent se le permettre seront aux meilleures places, les plus chères. Dans le théâtre à l'italienne vont apparaître un cadre de scène doré, un rideau rouge. Le cadre, ça définit ce que le public voit en termes de hauteur et de largeur de scène, ce qu'on appelle l'ouverture de scène. Les décors seront sur châssis avec dessus une toile tendue. les décors vont être suspendus dans les cintres. Alors ça, c'est toujours d'actualité. Les cintres, c'est là où on cache les décors, la lumière et le son. Tout est suspendu au-dessus de la scène. Il y a le cadre, donc ce que tu vois, et au-dessus de la scène, sur toute sa profondeur, il y a encore beaucoup de hauteur disponible pour par exemple un châssis de 4 mètres, qui est là à l'acte 1. Si tu ne veux plus qu'il apparaisse aux yeux du public à l'acte 2, il faut au moins des cintres de 8 mètres pour cacher ton châssis. Les décors peuvent moduler comme ça à la descente et à la montée grâce à des systèmes de poulies, de fils, de moufles inspirés de la marine. Énormément de notre vocabulaire et de notre technique vient de la marine car ce sont d'anciens marins qui ont été les premiers machinistes appelés ouvriers de la Seine à cette époque. Sur un bateau, il est interdit de dire le mot « corde » car la corde servait à la pendaison et cette superstition est donc restée aussi sur les plateaux de théâtre. C'est un outil qu'on utilise énormément mais on ne dit jamais le mot « corde », ça porte malheur, on parle alors de guinde ou de fil. Pour revenir au théâtre du XVIIIe siècle, la Sala Italienne permet une bonne acoustique. C'est une salle qui a d'abord été imaginée pour l'opéra. Il y a beaucoup de théâtre encore aujourd'hui à l'italienne. Tu as peut-être pu en faire l'expérience. L'Opéra Garnier, par exemple, est une sublime salle à l'italienne. Il y a aussi la Comédie Française ou le Grand Théâtre des Champs-Élysées. Dans des lieux parisiens où j'ai pu entrer, il y a le Théâtre Marigny ou les Folies Bergères, qui sont également des très beaux théâtres à l'italienne. Dans les cintres, en plus des châssis, on va venir accrocher petit à petit des frises et un fond. C'est ce qu'on va appeler la draperie, puis des éclairages. A l'inverse, si les cintres sont hauts, au moins à égal de la hauteur du cadre de scène, il y a également les dessous de scène qui doivent pouvoir dissimuler des châssis. En plus de toute cette machinerie, il va y avoir aussi beaucoup de bruitages pour imiter la pluie, le tonnerre, le vent, la grêle. Aujourd'hui, ce sont des bandes-sons, mais ça peut arriver sur des spectacles d'époque où on fasse de vrais bruitages en coulisses. Il y avait également des châssis qui pouvaient être manipulés dans des costières, comme des rails, pour faire bouger latéralement les décors. Par exemple, faire traverser un châssis de cour à jardin ou le faire entrer un peu plus au théâtre. Sur scène, si on te dit d'aller au théâtre, ça veut dire d'aller vers le centre de la scène. C'est un peu particulier de dire à quelqu'un d'aller au théâtre alors qu'on est déjà dans le théâtre, mais c'est vraiment le jargon qu'on utilise quotidiennement. Ça, ce sont des systèmes qu'on n'utilise vraiment plus. Il reste encore quelques rares théâtres équipés avec des costières, comme le Théâtre de la Reine à Versailles. Il me semble qu'il est possible de le visiter, mais que sur réservation, et les machinistes sur place manœuvrent les décors comme dans les conditions de l'époque, pendant les visites. Et ça, j'aimerais beaucoup y assister. C'est assez compliqué, en fait, d'expliquer la machinerie en audio. Il y a une vidéo « Machiniste au théâtre de la Reine » qui montre et explique tout ça sur YouTube. Tu y verras notamment un changement à vue du décor, donc sous les yeux des spectateurs, mais les machinistes sont invisibles. Il y a également des systèmes de trappe pour des apparitions et des disparitions. Au théâtre du château de Versailles, j'ai pu expérimenter la machinerie à l'ancienne des trappes. On appelle ça des tampons. Et c'est assez rare aujourd'hui de faire des apparitions comme ça dans des tampons. Aujourd'hui, il y a très peu de lieux qui ont encore des dessous de scène, ou du moins des dessous où on puisse ouvrir le plateau et les utiliser. C'est en 1906 qu'on plonge enfin dans le noir le public. Fini de se montrer au théâtre pour se faire bien voir, quand le spectacle commence, le public va finir par se taire et assister complètement à la pièce en elle-même. Le comédien est alors au centre de l'attention et le théâtre devient un moment à soi. Aujourd'hui, on ne construit plus de théâtre en forme de fer à cheval, mais des salles où on tente d'avoir le public le plus frontalement possible face à la scène, que chacun puisse avoir une visibilité totale, que le spectateur puisse voir toute la largeur et la profondeur de scène. Il n'y a plus de sièges face à des colonnes, par exemple. Attention, quand tu prends un ticket dans une salle italienne, tu peux avoir une mauvaise visibilité et un poteau en face de toi. Ce sont les places les moins chères, bah oui, parce que tu vois rien. Aujourd'hui, on est sur des salles avec deux espaces frontaux. Les plateaux sont moins profonds. Généralement, je travaille sur des scènes de 8-10 mètres de profondeur et un cadre à 12 mètres de largeur. La hauteur dépend des lieux, mais on demande généralement 7 à 8 mètres de hauteur pour l'éclairage. Il n'y a que rarement des dessous de scène et des cintres très très hauts. Ce sont vraiment les grandes salles qui ont des dessous permettant de créer des trappes, et c'est rare que les cintres puissent échapper de grands châssis. Ce sont vraiment des mouvements de décor pour les grands spectacles et les grandes salles, on ne voit plus trop ça en fait. À l'époque, on utilisait beaucoup de toiles peintes, j'en ai pas beaucoup parlé, mais aujourd'hui, c'est rare. Ça reste plutôt visible dans des opéras ou dans des adaptations de textes anciens, de Shakespeare ou Molière peut-être par exemple. Tu ne verras que rarement des toiles peintes pour une adaptation de textes contemporains. En revanche, les décors sur châssis, c'est ce que je fais le plus souvent toute l'année. Ça peut être des châssis bois ou métal ou un mélange des deux. Le décor est peint sur la face en contreplaqué, il y a parfois du relief. À la télé, souvent, quand des pièces de boulevard sont diffusées, c'est ce qu'on voit beaucoup. Les comédiens, ils jouent entourés de châssis qui représentent un appartement, par exemple. Tout ce qui est rideaux et draperies, les frises, les pendrillons et les fonds de scène, en fait, sont distribués dans la profondeur de la scène et ça nous permet de cacher les éclairages, le haut des décors, tous nos systèmes d'accroche, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans une recherche de réalisme où on ne voit pas du tout la technique. Ou alors, si la technique est visible, c'est une demande du metteur en scène. Sur toute la profondeur du plateau, on a des porteuses, en fait. Ce sont de grandes barres qui font la longueur du cadre de scène, et c'est sur ces barres qu'on accroche les lumières, le son et les décors. Les décors ne sont pas toujours accrochés aux porteuses, et c'est même rare en fait aujourd'hui. Ça peut être juste notre châssis de 4 mètres qui a une béquille, qu'on leste avec un poids pour ne pas que le châssis bouge, ou pour pas qu'il bascule par exemple si un comédien doit s'appuyer dessus. Ou alors le décor il est carrément fixé au plateau. C'est assez rare en fait qu'un décor bouge dans les mises en scène actuelles, donc on n'a plus besoin de les échapper dans les cintres. Généralement en montage on accroche sur les porteuses tout ce qu'il faut. Ensuite, on règle la hauteur des porteuses et des frises en essayant que le public ne puisse pas voir la technique, mais en jeu, il n'y a plus beaucoup de mouvements de porteuses. Dans les lieux dans lesquels je travaille, ou bien en tant que spectatrice, je vois des mouvements de décor plutôt dans des opéras ou dans des grosses productions comme des comédies musicales ou même des concerts, mais au théâtre, il n'y en a plus beaucoup. On va rester plutôt dans un décor fixe. De plus, les compagnies de théâtre s'arrangent souvent pour que leur manipulation de décors ou d'accessoires puisse être faite par la troupe elle-même. Quand la compagnie est accueillie dans un théâtre, elle n'a pas besoin de quelqu'un extérieur à leur spectacle pour que le spectacle puisse fonctionner. Dans le cas contraire, si besoin d'un machiniste, la compagnie stipule dans la fiche technique du spectacle qu'elle a besoin d'un machiniste, et dans le planning, le régisseur embauche quelqu'un et on prévoit une répétition pour que le machiniste apprenne ses manipulations. Généralement, la compagnie lui donne une conduite à suivre. C'est une fiche qui liste toutes les choses à faire pendant le spectacle avec des indications, le temps imparti, la vitesse, le sens, etc. Et il peut arriver que le machiniste au plateau ait un intercom sur les oreilles, donc c'est un casque. Et en fait, à la technique, on est tous reliés pour avoir les tops et pour pouvoir discuter et se donner des indications. Parfois, en tant que machiniste, on manipule à l'aveugle ou on voit très mal le résultat de notre manœuvre puisque nous-mêmes, on doit être cachés. Alors, ce sont les régisseurs, qui sont plutôt en console, qui sont nos yeux et nous donnent des indications. Va moins vite, stop, tu es arrivé, tu peux sécuriser ton nœud, etc. Bon, je suis allée un peu vite en besogne. Ça fait plutôt rêver quand tu es sur une exploitation. Alors, l'exploitation, ça veut dire que tu travailles sur le spectacle pendant le jeu. C'est le petit moment de gloire qui est agréable. Tu fais partie du spectacle, tu manipules, le spectateur ne voit rien et tout semble bouger comme par magie, alors que c'est grâce à toi, le technicien de l'ombre. Mais ce n'est clairement pas ce que je fais le plus dans mon métier, non. Je vais expliquer toutes les étapes et imaginer une journée type pour un machiniste. Donc généralement, moi, je suis appelée pour les prémontages, les déchargements de camions, les montages, les démontages et les stockages de décors, et parfois, mais c'est plutôt rare, sur les exploitations. Mais en gros, pour que tu imagines, dans les plannings, quand toute la technique est terminée, les artistes arrivent et moi je pars. Et le soir, quand le spectacle est fini, quand les artistes partent, c'est moi qui arrive. Si on imagine une création de spectacle, il est d'abord sur papier. Le metteur en scène et le scénographe imaginent l'espace scénique. Le scénographe, il fait les plans, souvent adaptés à la taille de la ou les salles où ils vont créer le spectacle. Ensuite, l'équipe des constructeurs vont donner vie au décor en suivant les cotes et les matériaux demandés. Et ensuite, moi en technique, je peux être appelée à charger le décor dans des camions ou dans des semi-remorques pour qu'il soit acheminé des ateliers de construction jusqu'au théâtre. C'est un des premiers jobs pour un technicien plateau, c'est le chargement et le déchargement des camions. On appelle ça être rôde. Le chargement doit être équilibré et tout doit être bien attaché pour éviter les chutes et la casse pendant le transport. Les déchargements de camions sont différents selon chaque lieu. Il y a des quais de déchargement idéaux où on a des portes derrière la scène qui peuvent s'ouvrir et où on décharge au même niveau que la scène. Mais il y a aussi des lieux où c'est l'étape la plus complexe, où la scène n'est pas au même niveau que le quai de déchargement. Si on n'est pas au même niveau, il y a des monte-charges pour y déposer le décor et en gros c'est un ascenseur qui permet de faire les allers-retours entre la rue et le plateau. Et selon le lieu, tu peux brasser, comme on dit, plusieurs fois le décor. Moi je ne l'ai jamais fait, mais imagine dans les stades quand il faut monter une scène et des décors, tout ce qu'il faut traverser, les kilomètres où tu marches à pousser des flycases. Je ne l'ai jamais fait non plus, mais a priori dans les zéniths, ce sont carrément les semi-remorques qui rentrent dans le lieu. Et dans ce cas-là, c'est idéal, si on peut dire, puisque le matériel est déchargé au plus proche et au même niveau. Faut savoir qu'un zénith, c'est une grande boîte vide, donc faut tout monter à chaque spectacle, jusqu'à même la scène. Lors des déchargements de camions, on reçoit les décors, les lumières, le son et les costumes. Et souvent, on privilégie tout ce qui peut rouler. Un camion rempli de fly où tout est rangé à l'intérieur, ça nous rend heureux par exemple. Quand on n'a que des châssis à sortir, des planchers ou des éléments lourds en métal qui ne roulent pas, il faut alors tout porter. Un technicien doit apprendre à porter. Il y a des techniques et des formations gestes et postures pour ne pas se faire mal. Des fois, tu te demandes comment tu vas faire pour porter un châssis énorme ou un tube de 6 mètres de long alors que tu fais 1 m60, mais en fait, c'est tout à fait possible et on remarque très vite les techniciens qui ne savent pas porter. On doit très vite réagir et le leur dire en fait sans vexer forcément la personne parce que généralement, on porte par binôme et tu vas vite te tordre le dos ou te blesser si la personne en face de toi ne porte pas bien l'élément de décor. Et ça, c'est que le début de la journée, ou la toute fin, quand c'est le moment du démontage. C'est une étape où on essaie de s'économiser, et c'est ces moments-là où il y a le plus de personnel embauché. Une fois le déchargement fait, on passe au montage. Le régisseur prend les codes du plan, et on fait tous les marquages au sol. Les plans sont adaptés dans chaque nouvelle salle où le décor va jouer. Et une fois que le scénographe a fait toute la création, c'est le régisseur plateau qui prend le relais et qui adapte les plans en amont ou sur place. Moi, quand j'arrive sur un montage, je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Les régisseurs du lieu, eux, ils ont les plans, ils ont déjà communiqué avec le régisseur du spectacle et ils ont déjà négocié et vu toutes les contraintes. Moi, quand je suis technicienne plateau, soit j'ai regardé avant sur internet à quoi allait ressembler le décor, mais honnêtement, c'est rare que je le fasse, soit je ne sais pas ce que je vais monter et chaque décor est différent. Chaque régisseur a sa manière de faire. Il connaît son spectacle, il sait dans quel ordre on va monter le tout. Donc en fait, c'est un peu chaque jour l'inconnu. Moi, j'arrive sur le plateau et je ne sais pas du tout à quoi va ressembler ma journée. Et tous les jours, on peut apprendre des choses et des techniques. Sur un plateau, tout le monde travaille en même temps. Les machinistes, la lumière, le son, la vidéo. Ce pourquoi c'est important d'avoir un briefing avant que tout le monde parte dans tous les sens. Mais parfois, il n'y a pas de briefing ou les infos y passent que de régisseur en régisseur. Et nous, les techniciens, on ne sait rien. On suit un peu comme ça au gré de la journée quand il y a une info ou quand il y a un régisseur qui nous donne une mission. Et c'est une blague qu'on fait souvent un peu dans tous les théâtres dans lesquels je travaille. On dit souvent qu'il ne faut pas prendre d'initiative. Donc voilà, on en rigole, c'est un peu péjoratif parce que, en fait, voilà, des fois les infos elles ne passent pas et là nous on attend, on sait pas ce qu'il faut faire et on attend qu'on nous donne du travail quoi. Et en fait on ne peut pas nous se permettre de commencer à monter un élément pour qu'ensuite le régisseur nous dise mais non fallait pas faire ça, fallait qu'on fasse ça avant et qu'en fait on se rende compte qu'on a perdu du temps ou qu'il faut démonter ce qu'on a fait. Outre les châssis, il y a souvent des plateformes, des escaliers et aussi des éléments de machinerie, s'il faut par exemple monter une machine à neige, par exemple. On a parfois besoin de surélever la scène à certains endroits, donc on installe des praticables qui sont des plateformes où on peut régler la hauteur des pieds. Ça voilà, ce sont vraiment des choses qu'on peut faire assez régulièrement en tant que technicien plateau. Pour les spectacles de danse, on doit systématiquement installer des tapis de danse, et ça c'est pareil, il y a différentes techniques pour les installer. Et voilà, en fait la technique c'est énormément de choses, et c'est des contraintes, on sait jamais le décor ce que ça va être, parce que ça peut être tout et n'importe quoi un décor de théâtre, il n'y a pas de règles. Et chaque théâtre est différent, la taille du plateau, la taille des coulisses, les hauteurs, la charge que le plateau peut porter, voilà c'est plein de choses qui sont différentes d'un lieu à un autre. Ça peut m'arriver aussi de monter le même décor parce qu'il y a une compagnie qui tourne dans la région. Et voilà, les contraintes vont être différentes d'une salle à une autre. Il y a peut-être une salle où ça va être hyper simple parce que tout rentre impeccable, et une autre où en fait ça rentre moins bien et où on a des contraintes qu'on n'avait pas imaginées. Ce qui est très important aussi, c'est toute la draperie. Elle sert à cacher les porteuses où tout est accroché. Donc on a des frises qui sont plus ou moins grandes. Les pendrillons, ce sont des velours qui permettent de structurer nos coulisses. Il y a plusieurs techniques pour cacher les coulisses. On peut installer les pendrillons à l'allemande. Le comédien, il est comme enfermé sur scène avec quelques ouvertures pour ses entrées et sorties. Et on a aussi les pendrillons à l'italienne qui sont installés par rangée, je dirais. Et chaque rang de pendrillons forme ce qu'on appelle des rues. Donc de cette manière, le metteur en scène, il peut dire à son comédien « À la prochaine scène, tu rentres dans la deuxième rue ». Et le comédien, il sait que c'est derrière la deuxième rangée de pendrillons. Selon les lieux, il est plus ou moins difficile de cacher les coulisses. Il peut y avoir des découvertes. Ça veut dire qu'une partie du public peut nous voir à un certain endroit et on essaie au maximum d'éviter les découvertes. Toute cette draperie, c'est ce qu'on appelle la boîte noire et c'est une étape très importante du montage. Quelque chose de particulier que j'ai pu faire aussi, c'est de monter des vols. Ça peut être un vol d'objets ou un vol d'humains. Et ça m'est déjà arrivé d'en monter. Un vol ou un rideau qui s'ouvre, par exemple, ça se monte sur une patience, c'est comme un rail, où il y a tout un système de poulies et de contrepoids. Et c'est quelque chose qui est très réglementé, surtout quand on fait voler un humain. Ça m'est arrivé de manipuler des vols humains à la guinde, donc à la force de mes bras, mais aussi de manipuler des vols qui sont programmés électriquement sur moteur. Il en va de même pour les porteuses dans les cintres. Il y a des porteuses encore équipées avec des guindes en chanvre, avec un système de poulies et de contrepoids, mais il y a de plus en plus de porteuses électriques. C'est un poste spécifique du technicien plateau, celui qu'on appelle le cintrier. Les porteuses manipulées encore manuellement sont ce qu'on appelle des porteuses contrebalancées. Si on accroche un élément de décor de 20 kg par exemple, dans les chariots de contrepoids, le cintrier doit équilibrer et y mettre 20 kg. De cette manière, on peut monter et descendre les porteuses à la force de nos bras. Là, c'est un poste physique. À l'époque, il y avait beaucoup de cintriers qui avaient des conditions de travail difficiles, je dirais, puisqu'à ce poste, on a des mauvaises postures pour atteindre les chariots. On doit se baisser, on travaille en hauteur. Et en fait, en mettant des poids dans les chariots de contrepoids, on porte des tonnes sans s'en rendre compte. Les porteuses électriques, c'est autre chose. On a une machine qui permet de leur dire si on veut qu'elles montent ou qu'elles descendent. Pour ce podcast, j'utilise des mots simples, mais en fait, on a beaucoup de vocabulaire. Et dans le jargon, quand une porteuse monte, on dit qu'elle appuie. Et quand elle descend, on dit qu'elle charge.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Denise, appuyer l'intercours ?
On n'emploie jamais monter et descendre pour les porteuses, parce que je l'ai déjà dit, il y a un petit moment déjà, monter et descendre, c'est quand on est au plateau. On monte vers le lointain et on descend vers l'avant-scène. Donc les porteuses, elles appuient ou elles chargent. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir des porteuses contrebalancées et des porteuses électriques. C'est sûr que l'électrique apporte un confort et de meilleures conditions de travail, mais il suffit d'appuyer sur un bouton et souvent on se rend compte tard si un décor est en train de taper quelque part ou de s'arracher parce qu'il s'est pris dans quelque chose dans les cintres. Alors que ça n'arrive pas en contrebalancé. Étant donné qu'on manipule à la main, si quelque chose bloque, on le sent tout de suite dans les mains que la guinde elle est bloquée. Le moteur, Lui, il a une telle force qu'il continue sa course tant qu'il peut. Donc, certes, c'est plus facile des porteuses sur moteur, mais ça demande beaucoup plus de vigilance quand on les manipule. Et aussi, en termes d'emploi, avec les moteurs, on a besoin de beaucoup moins de techniciens. Avant, imaginons un décor sur toile peinte, s'il y avait besoin que 4 toiles bougent en même temps. Il fallait alors 4 cintriers, car un cintrier, il ne peut manipuler qu'une porteuse à la fois. Par contre, avec une machine, tu peux manipuler les 4 porteuses en même temps, et selon le lieu, tu peux même les programmer, leur donner des vitesses différentes, dire à une porteuse de charger pendant que l'autre elle appuie, etc. Donc, dans cet exemple, ça fait 3 personnes en moins à embaucher si tu as des porteuses électriques dans ton théâtre. On a eu besoin de moins en moins de cintriers avec l'évolution de la technique. Aujourd'hui, on a généralement un cintrier dans chaque lieu, voire pas du tout. Car je te disais, en jeu, c'est devenu rare qu'il y ait des mouvements dans les cintres. Quand il n'y a pas de poste de cintrier, et des fois il n'y a même pas non plus de poste de régisseur plateau, ce sont les régisseurs généraux, ou le régisseur lumière ou le régisseur son, qui vont manipuler les porteuses pendant le montage. Il n'y a plus besoin d'avoir autant de machinistes ou de cintriers au plateau. Généralement, dans un théâtre, il y a plusieurs postes permanents à la technique, donc du personnel en CDI. Il y a possiblement un directeur technique, qui chapeaute la technique, mais surtout aussi l'entretien du bâtiment en lui-même. En dessous, il y a le régisseur général. Ensuite, un régisseur lumière et un régisseur son. Souvent, les théâtres économisent sur un poste, donc celui du régisseur plateau. Mais l'idéal, c'est un trio de régisseurs, plateau, lumière et son. Ensuite, il y a les techniciens en CDD. On embauche les intermittents selon les spectacles. Le régisseur qui fait les plannings, il connaît les compétences et les spécialités de chacun de ses techniciens et il appelle selon ses besoins. Donc on peut avoir des postes comme rôde, rigueur, technicien polyvalent, technicien vidéo, technicien son, backliner, électricien, machiniste, régisseur d'orchestre, constructeur, peintre, conducteur poids lourd, voilà. Une chose aussi très importante et primordiale dans nos métiers techniques, c'est la sécurité. Toute la journée, on travaille sous des charges que l'on a nous-mêmes accrochées. Il y a beaucoup de règles de sécurité dans tout ce qu'on fixe au-dessus des têtes. Car notre contrainte, c'est que l'on accroche, certes, mais il faut aussi que ce soit démontable facilement. Il y a des formations accroche-élevage. Tout ce qu'on accroche qui va être dans les cintres doit être sécurisé avec un double système d'accroche. Il faut toujours que si le premier système d'accroche lâche pour X raisons, un deuxième puisse maintenir la charge pour éviter la chute sur la tête de quelqu'un. Mais rassure-toi, tout est fait pour que le premier système d'accroche déjà ne puisse jamais lâcher. Quand on est sur un plateau, on est inévitablement sous des charges. Et à travailler sur scène, on n'est pas seul. En plus de la technique, bah évidemment il y a les comédiens, les habilleurs, la direction artistique, etc. Donc nous, on a des règles à respecter en termes d'accroche. Je ne vais pas détailler, mais en gros, on doit suivre des coefficients. Par exemple, si notre élingue, elle doit porter 50 kg, il faut utiliser une élingue qui puisse supporter au moins le double. Et quand on accroche quelque chose au-dessus de toi, dans le public, le coefficient est encore plus grand. Notre matériel, il doit être vérifié, ça fait partie de notre travail aussi, on ne peut pas accrocher avec n'importe quoi, et à la moindre usure, on jette le moyen d'accroche. Quand on accroche avec des guindes, on a des nœuds à connaître avec des sécurités, comme les marins une fois encore, pour que le nœud ne tourne pas, ne se défasse pas, ni ne bouge. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. On doit être équipé, nous aussi, quand je parle de sécurité, c'est aussi nous-mêmes, et tout le monde ne le fait pas, il y a énormément de réglementations qui sont parfois même handicapantes pour nous pour travailler. Mais voilà, en fait, tout le monde se protège dans tous les sens du terme, en fait, en cas d'accident du travailleur. Le minimum, pour moi, c'est les chaussures de sécurité, les gants, parfois le casque, parce qu'on peut travailler au plateau, mais peut y avoir aussi les rigueurs qui travaillent au-dessus de ta tête. Donc lui, s'il fait tomber quelque chose, ça peut être très dangereux. Et quelque chose aussi... moi j'y pense jamais, mais c'est les bouchons d'oreilles. Parfois tu peux avoir des journées entières par exemple sur un montage de chapiteau où on tape de la ferraille ou des collègues qui utilisent les marteaux piqueurs En fait, là, tes oreilles, elles prennent super cher. On travaille, c'est un métier physique, il y a des risques. Parfois, on nous met la pression, faut aller plus vite. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent partout. Donc, vaut mieux être vigilant et éviter l'accident, même si on est en retard. Mais voilà, beaucoup de choses se jouent, les plannings, les gens, ils sont payés de telle heure à telle heure, c'est budgété, donc si on est en retard, ça peut vite monter en pression. On va imaginer la journée type pour un technicien plateau. Imaginons, on accueille une compagnie de théâtre, peut avoir eu un pré-montage où on a implanté toute la lumière, la boîte noire, le son et le jour où la compagnie arrive. Si c'est un petit spectacle, généralement c'est montage du décor le matin et en même temps il y a la lumière et le son, donc voilà, il y a vraiment tous les métiers où on travaille en même temps. L'après-midi ça peut être répétition ou balance, et puis voilà, finition, préparer les coulisses. Le soir, le spectacle joue, donc ça c'est le cas d'un spectacle monté le jour J. Moi je suis en province, donc les spectacles jouent une fois, voire deux, soit pour des représentations scolaires, ou vraiment si c'est un spectacle qui est un gros succès et que la salle ne prend pas trop de risques à mettre une deuxième représentation, mais généralement ça joue en one shot. Donc le spectacle joue, le public sort et on démonte dès que tu es sorti de la salle. Donc ça peut arriver qu'à 9h, je monte un décor et à 22h, je le démonte déjà. Et le lendemain, je passe à un autre spectacle, etc., etc. En tant que technicienne, on peut m'appeler le matin par exemple, parce qu'il y a un déchargement de camion et un montage de 3 heures, et ensuite je reviens le soir pour le démontage et le chargement. Et dans ces cas-là, j'ai un creux béant dans ma journée. Donc voilà, je peux faire 9h, 13h, et on me demande de revenir à 22h. Et là, bah, faut rester en forme pour s'y remettre le soir, quoi. Parfois, je suis appelée que pour un contrat de 4 heures. Souvent, quand je suis appelée 4 heures, c'est un montage ou un démontage. Notre employeur, il est dans l'obligation de nous embaucher pour au moins 3h30 de travail d'affilée. J'ai des contrats à signer quasiment tous les jours. Les contrats, ils sont par spectacle, en fait. Si je suis embauchée 4 heures pour un montage de spectacle de danse, mardi matin, et que le soir, je démonte une pièce dans un autre théâtre, je vais avoir deux contrats dans la même journée. C'est possible et c'est énormément de paperasse à garder, à trier, à organiser. Un autre exemple type de contrat, si je suis sur une exploitation, parce que sur ce spectacle-là, on a besoin que je manipule un décor en jeu. Imaginons, mon contrat, il est sur 5 jours. Le spectacle, il joue 4 fois. On monte le spectacle à J-1. J-1, ça veut dire que le montage, il commence la veille de la première représentation. À J-1, on a le montage, les réglages lumière, les balances. Le lendemain, jour J, le matin, on peut avoir une conduite lumière. Donc la conduite, ça veut dire que le régisseur, il repasse tous ses tableaux lumière dans l'ordre du spectacle et il programme sa console. L'après-midi, on peut avoir une répétition des comédiens. Et le soir, on joue et on va enchaîner comme ça pendant 4 jours, avec en plus le dernier jour à la suite du spectacle, enchaîné avec le démontage. Sur les 5 jours par exemple, je fais des journées de 8 heures, donc j'aurai un contrat de 40 heures. 5 jours, donc 5 fois 8 heures. Là, déjà, quand j'ai un contrat comme ça, je suis plutôt contente. C'est un contrat sur plusieurs jours et avec plus d'heures. Et même en termes de paperasse, c'est mieux d'avoir des contrats comme ça que tous les jours des contrats de 4 heures, quoi. Donc je peux avoir des contrats de 3h30, mais généralement c'est 4 heures, comme des contrats de 200 heures si je travaille sur l'exploitation d'un spectacle. Le statut intermittent, j'en ai déjà parlé un peu dans un autre épisode où on comparait nos expériences avec Tiphaine, qui est elle régisseuse au cinéma, et on démontrait les ressemblances et les différences d'expérience entre les deux milieux. En gros, le statut intermittent. La première année où tu travailles, comme technicien ou comme artiste, tu dois faire 507 heures en un an pour déposer ton statut. Une fois que tu l'as, tu touches des indemnités par Pôle emploi tous les mois si tu n'as pas assez travaillé dans le mois. Par exemple, moi je travaille au gré des saisons théâtrales. Et les théâtres, ils ouvrent en septembre-octobre jusqu'en mai-juin. Donc en juillet et en août, je n'ai quasiment pas travaillé. J'ai travaillé que quelques jours. J'aurais eu du mal à vivre si je n'avais touché que ces jours-là d'embauche. J'aurais pas pu payer mon loyer avec juste mes heures d'intermittence. Donc les indemnités m'ont permis de toucher un salaire qui avait été calculé par rapport au nombre d'heures de mon dernier statut déposé. Ça fait 3 saisons où j'arrive à faire des statuts intermittents entre 1000 et 1200 heures en un an. Donc en comparaison, un 35 heures, ça représente 1607 heures par an. Cette année, j'ai beaucoup plus de craintes car il y a très peu d'argent dans les théâtres, il y a moins de subventions et les programmations sont allégées, il va y avoir beaucoup moins besoin de techniciens. En fait, ils réduisent les coûts là où ils peuvent et là où ils le veulent bien, pour certains lieux, et nous en technique, et encore plus au plateau, on est en bas de l'échelle. Donc forcément, on sait qu'on va être dans les premiers touchés et c'est là qu'on va taper. Mais ça crée d'autres problèmes. Si tu embauches moins, ça veut dire que les équipes vont faire le boulot à 5 par exemple, au lieu de 8, et bien du coup il y aura des risques de retard, d'accident justement, où ce sera moins bien fait, ou dans des moins bonnes conditions, dans le stress, où on va moins bien accueillir les compagnies. Mais à la technique, c'est pas magique, mais on arrive toujours à faire en sorte qu'on y arrive, que ce soit fait à temps. J'ai rarement vu un spectacle joué alors que ce n'était pas fini d'être monté ou un spectacle démarré alors qu'on n'était pas prêt. Quoi qu'il arrive, même avec toutes les galères qu'on a pu avoir avant ou pendant le montage ou pendant les répétitions, souvent au moment où le spectacle joue, ça fonctionne. Et ça m'est arrivé qu'une fois, je crois, en presque 10 ans de métier, où le régisseur était encore en train de régler des projecteurs au moment où le rideau s'est ouvert. Et franchement, c'était un truc de fou, moi j'ai trouvé ça aberrant, j'avais jamais vu ça. Mais c'était pas du tout parce qu'on n'avait pas assez de temps de montage ou parce qu'on avait eu des galères, pas du tout, c'était juste que le régisseur, il ne savait pas s'organiser et voilà, il n'avait pas réussi à ce que ce soit prêt au moment où le spectacle il a commencé quoi. C'est vraiment, c'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé, sinon quand le rideau il s'ouvre, on est prêt quoi. Je disais donc 10 ans de métier presque. J'ai commencé la technique en 2014 et il est peut-être temps que je parle de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Take your protein pills and put your helmet on. C'est la fin de cet épisode. Tu peux écouter mon histoire dans la deuxième partie de cet épisode 10. La deuxième partie, contrairement à celle que tu viens d'entendre, je l'ai enregistrée sans filet, sans texte préécrit, et je dis ce que je pense de mon parcours et ma vision du milieu. Je suis en perpétuel questionnement sur où est ma place. Le podcast m'a vraiment aidée dans un moment critique où je voulais quitter mon poste de technicienne. Le spectacle, c'est une passion et c'est autre chose de rentrer dans les coulisses de sa passion et d'en faire son métier. Il y a beaucoup d'avantages et des inconvénients, comme dans tout. J'espère que cet épisode historique t'a plu, ainsi que la partie sur le technicien plateau aujourd'hui. Il y aurait énormément d'autres choses à dire, c'est impossible d'en faire une synthèse, comme dans tous les métiers, je pense. La complexité, c'est qu'au plateau, on peut faire tout et n'importe quoi, et c'est un peu la conclusion que je peux faire. On est des hommes et des femmes à tout faire, nous sommes les garants du plateau et de tous ceux qui travaillent dessus. On en voit de toutes les couleurs au gré de l'imagination des créateurs artistiques. Je complète encore en partageant mon expérience dans le prochain épisode. Si tu as des questions ou des retours à me faire, tu peux me rejoindre sur Instagram, La Joie de Camille. J'y mettrai des images, notamment des cintres, des châssis, parce que c'était difficile d'expliquer avec des mots simples tellement il y a de vocabulaire utilisé sur un plateau de théâtre. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'ai été ravie d'enregistrer cet épisode, qui est un format différent de d'habitude. J'espère que ça t'a plu, merci encore et je te dis à bientôt. Extrait de la deuxième partie de l'épisode 10. Et assez rapidement, ils m'ont dit « Camille, tu fais partie de la prochaine promo des apprentis régisseurs plateau. » Donc en fait, je suis partie de mon entretien, je savais déjà que j'étais prise au CFPTS. Et a priori, j'étais la seule de ma promo à qui c'est arrivé. « pour écrire la première partie sur l'histoire du théâtre et de la machinerie. En termes de bibliographie, j'ai pris mes notes grâce à l'histoire du théâtre dessinée de André de Gaines. Donc c'est un livre qui est très beau et qui est avec plein de dessins pour figurer tout ce que j'ai pu expliquer. Vraiment c'est un livre hyper complet où j'ai pu dégoter toutes ces informations et également le traité de scénographie de Pierre Sonrel.